Actif.
Principe actif.
Bienvenue sur Principe Actif, vous êtes dans l'émission La Langue Brune. On est ensemble jusqu'à 13h30. Aujourd'hui, c'est une spéciale Planète des Singes. Je laisse tout de suite la parole à Prunelle.
Bonjour, bonjour. Donc, comme vous l'a dit Anouk, c'est une spéciale Planète des Singes. Tous les fans de l'épopée Planète des Singes apprécieront. On a choisi pour vous des extraits très très appétissants du livre de Pierre Boulle. Et ben c'est parti, on y va. Extrait 1, introduction. Jean et Phyllis passaient des vacances merveilleuses dans l'espace, le plus loin possible des astres habités. En ce temps-là, les voyages interplanétaires étaient communs. Les déplacements intersidéraux non exceptionnels, les fusées emportaient les touristes vers les sites prodigieux de Sirius ou les financiers vers les bourses fameuses d'Arcturus et d'Aldébaran. Mais Jean et Phyllis, un couple de riches oisifs, se signalaient dans le cosmos par leur originalité et par quelques grains de poésie. Ils parcouraient l'univers pour leur plaisir à la voile. Ce jour-là, Jean et Phyllis étaient allongés côte à côte, au centre de leur ballon, sans autre souci que de jouir de leurs vacances en se laissant griller par les rayons de leurs trois soleils. Jean, les yeux clos, ne songeait qu'à son amour pour Phyllis. Couché sur le flanc, Phyllis regardait l'immensité du monde et se laissait hypnotiser, comme cela lui arrivait souvent, par la sensation cosmique du néant. Elle sortit soudain de son rêve, fronça le sourcil et se dressa à demi. Un éclair insolite avait traversé ce néant. Elle attendit quelques secondes et perçut un nouvel éclat, comme un rayon se reflétant sur un objet brillant. Le sens du cosmos qu'elle avait acquis au cours de ses croisières ne pouvait la décevoir. D'ailleurs, Jean, alerté, fut de son avis et il était inconcevable que Jean fît une erreur en cette matière. Un corps étincelant sous la lumière flottait dans l'espace, à une distance qu'il ne pouvait encore préciser. Jean saisit des jumelles et les braqua sur l'objet mystérieux, tandis que Phyllis s'appuyait sur son épaule. « C'est un objet de petite taille, dit-il. Cela semble être du verre. Laisse-moi donc le garder. » Il se rapproche. « Il va plus vite que nous. On dirait... » Son visage devint sérieux. Il laissa retomber les jumelles dont elle s'empara aussitôt. C'est une bouteille, chérie. Une bouteille ? Elle regarda à son tour. Une bouteille, oui, je la vois distinctement. Elle est en verre clair. Elle est bouchée. Je vois le cachet. Il y a un objet blanc à l'intérieur. Du papier, un manuscrit sûrement. Jean, il nous faut l'attraper. C'était bien la vie de Jean qui avait déjà commencé à effectuer des manœuvres savantes pour se placer sur la trajectoire du corps insolite. Il y parvint, rapidement, et réduisit la vitesse de la sphère pour se laisser attraper. Pendant ce temps, Phyllis revêtait son scaphandre et elle sortit de la voile par la double trappe. Là, se tenant d'une main à une corde, de l'autre brandissant une épuisette à longs manches, elle s'apprêta à pêcher la bouteille. « Plus lentement, Jean !»« Non, un peu plus vite !»« Elle va nous dépasser. À bâbord. À tribord. Laisse aller. Je l'ai. Elle poussa un cri de triomphe et rentra à bord avec sa prise. C'était une bouteille de grande taille, dont le goulot avait été soigneusement scellé. On distinguait un rouleau de papier à l'intérieur. « Jean, casse-la, dépêche-toi !» clama Phyllis en trépignant. Plus calme, Jean faisait voler les morceaux de cire avec méthode. Mais quand la bouteille fut ainsi ouverte, il s'aperçut que le papier, coincé, ne pouvait sortir. Il se résigna à céder aux supplications de son ami et brisa le verre d'un coup de marteau. Le papier se déroula de lui-même. Il se composait d'un grand nombre de feuillets très minces, couverts d'une écriture fine. Le manuscrit était écrit dans le langage de la Terre, que Jean connaissait parfaitement, ayant fait une partie de ses études sur cette planète. Un malaise le retenait pourtant de commencer à lire un document tombé entre leurs mains d'une manière si bizarre. Mais la surexcitation de Phyllis le décida. Elle comprenait mal, elle, le langage de la Terre et avait besoin de son aide. « Jean, je t'en supplie !» Il réduisit le volume de la sphère de façon qu'elle flotta mollement dans l'espace, s'assura qu'aucun obstacle ne se dressait devant eux et puis s'allongea auprès de son ami et commença à lire le manuscrit. Je confie ce manuscrit à l'espace, non dans le dessein d'obtenir du secours, mais pour aider, peut-être, à conjurer l'épouvantable fléau qui menace la race humaine. Dieu ait pitié de nous. La race humaine ? Souligna Phyllis étonnée. C'est ce qui est écrit, confirma Jean. Ne m'interromps pas dès le début. Et il reprit sa lecture. Pour moi, Ulysse Mirou, je suis reparti avec ma famille dans le vaisseau cosmique. Nous pouvons subsister pendant des années. Nous cultivons à bord des légumes, des fruits et nous élevons une basse-cour. Nous ne manquons de rien. Peut-être trouverons-nous un jour une planète hospitalière. C'est un souhait que j'ose à peine formuler. Mais voici, fidèlement rapporté, le récit de mon aventure.
Extrait numéro 2, où Ulysse rencontre Nova. Là, sous les rayons ardents de Bételgeuse, qui envahissait le ciel au-dessus de nos têtes comme un énorme ballon rouge, bien visible, admirablement dessiné sur une petite bande de sable humide, apparaissait l'empreinte d'un pied humain. « C'est un pied de femme », affirma Arthur Levin. « Soror est donc habitée par des humains ?» murmura le professeur Antel. « Elle était là, il y a moins de 5 minutes !» s'écria le jeune homme. Elle était en train de se baigner, nous a entendu venir et s'est enfuie. C'était devenu pour nous une évidence implicite qu'il s'agissait d'une femme. Nous restâmes silencieux, épiant la forêt, sans entendre même le bruit d'une branche cassée. « Nous avons bien le temps, » dit le professeur Antel en haussant de nouveau les épaules. « Mais si un être humain se baignait ici, nous pouvons sans doute le faire sans danger. » Sans plus de façon, le grave savant se débarrassa à son tour de ses vêtements et plongea son corps maigre dans la piscine. Après notre long voyage, le plaisir de ce bain dans une eau fraîche et délicieuse nous faisait presque oublier notre récente découverte. Seul, Arthur Levin paraissait songeur et absent. J'allais le plaisanter sur son air mélancolique quand j'aperçus la femme, juste au-dessus de nous, juchée sur la plateforme rocheuse d'où tombait la cascade. Jamais je n'oublierai l'impression que me causa son apparition. Je retins ma respiration devant la merveilleuse beauté de cette créature de Soror qui se révélait à nous, éclaboussée d'écume, illuminée par le rayonnement sanglant de Bételgeuse. C'était une femme, une jeune fille plutôt, à moins que ce ne fût une déesse. Elle affirmait avec audace sa féminité à la face de ce monstrueux soleil, entièrement nu, sans autre ornement qu'une chevelure assez longue qui lui tombait sur les épaules. Enfin, je regardais ses yeux. Alors, mes facultés d'observation furent réveillées. Mon attention se fit plus aiguë, et je tressaillis, car là, dans son regard, il y avait un élément nouveau pour moi. Là, je décelais la touche insolite, mystérieuse, à laquelle nous nous attendions tous, dans un monde si éloigné du nôtre. Mais j'étais incapable d'analyser et même de définir la nature de cette étrangeté. Je sentais seulement une différence essentielle avec les individus de notre espèce. Elle ne tenait pas à la couleur des yeux. Ils étaient d'un gris assez peu courant chez nous, mais non exceptionnel. L'anomalie était dans leur émanation, une sorte de vide, une absence d'expression, me rappelant une pauvre démente que j'avais connue autrefois. Mais non, ce n'était pas cela. Ce ne pouvait être de la folie. Lorsqu'elle s'aperçut qu'elle était elle-même un objet de curiosité, plus précisément lorsque mon regard rencontra le sien, elle parut recevoir un choc et se détourna brusquement d'un geste mécanique aussi prompt que celui d'un animal apeuré. Comme interloqués, nous nous forcions à continuer de nager, sans nous soucier d'elle. Elle parut prendre un parti. Elle s'accroupit sur le rocher, prit un appui sur ses mains et commença de descendre vers nous. Elle était d'une agilité singulière. Son corps doré se déplaçait rapidement le long de la paroi, nous apparaissant éclaboussé d'eau et de lumière comme une vision féerique à travers la mince lame transparente de la cascade. En quelques instants, s'accrochant à des saillies imperceptibles, elle fut au niveau du lac, à genoux sur une pierre plate. Elle nous observa encore quelques secondes, puis se mit à l'eau et nagea vers nous. Nous comprîmes qu'elle voulait jouer, et sans nous être concertés, nous continuâmes avec ardeur des ébats qui l'avaient si bien mise en confiance, corrigeant nos façons dès qu'elle semblait effarouchée. Cette séance durait depuis déjà longtemps et nous commencions à nous essouffler, quand je fus frappée par un caractère paradoxal de la physionomie de cette fille, son sérieux. Elle était là, prenant un plaisir évident à ces amusements qu'elle inspirait, et jamais un sourire n'avait éclairé son visage. Cela me causait depuis un moment un malaise confus, dont la raison précise m'échappait, et que je fus soulagée de découvrir. Elle ne riait ni ne souriait. Elle émettait seulement de temps en temps un de ces petits cris de gorge qui devaient exprimer sa satisfaction. Cette radieuse créature, dans un élan romantique de mon cœur, je l'avais baptisée Nova, ne pouvant comparer son apparition qu'à celle d'un astre éclatant.
Extrait 3. La chasse. Nous en étions là de nos tentatives de rapprochement. Moi, ne sachant trop comment poursuivre, angoissée à la pensée de commettre quelques bévues avec mes façons de la terre, quand un effroyable charivari nous fit sursauter. Mes deux compagnons, que j'avais égoïstement oubliés, et moi-même, nous nous trouvâmes debout dans l'aube naissante. Nova avait fait un bond encore plus rapide et présentait les signes du plus profond affolement. Je compris d'ailleurs tout de suite que ce vacarme n'était pas seulement une mauvaise surprise pour nous, mais pour tous les habitants de la forêt, car tous, abandonnant leur tanière, s'étaient mis à courir de ci, de là, d'une manière désordonnée. Il ne s'agissait plus d'un jeu, comme la veille. Leurs cris exprimaient une terreur intense. Ce vacarme, rompant brusquement le silence de la forêt, était de nature à glacer le sang. Mais j'avais en outre l'intuition que les hommes de la jungle savaient à quoi s'en tenir et que leur épouvante était due à l'approche d'un danger précis. C'était une cacophonie singulière, un mélange de coups précipités, sourds comme des roulements de tambour, d'autres sons plus discordants ressemblant à un concert de casseroles, et aussi de cris. Ce furent ces cris qui nous impressionnèrent le plus, car, quoique n'appartenant à aucune langue connue de nous, ils étaient incontestablement humains. Le petit jour éclairait dans la forêt une scène insolite. Hommes, femmes, enfants couraient en tous sens, se croisant, se bousculant, certains même grimpant aux arbres comme pour y chercher un refuge. Bientôt pourtant, quelques-uns parmi les plus âgés s'arrêtèrent pour tendre l'oreille et écouter. Le bruit se rapprochait assez lentement. Il venait de la région où la forêt était le plus dense et semblait émaner d'une ligne continue assez longue. Je le comparais au tapage que font les rabatteurs dans certaines de nos grandes chasses. Je parcourus plusieurs centaines de mètres sans parvenir à rejoindre Nova et m'aperçus alors que Levin, seul, m'avait suivi, l'âge du professeur Antel lui interdisant sans doute pareille course. Il haletait à côté de moi. Nous nous regardâmes, honteux de notre conduite, et j'allais lui proposer de revenir en arrière ou au moins d'attendre notre chef quand d'autres bruits nous firent sursauter. Pour cela, je ne pouvais faire erreur. C'était des coups de feu qui faisaient retentir la jungle. Un, deux, trois, puis bien d'autres, à intervalles irréguliers, parfois isolés, parfois deux détonations consécutives, rappelant étrangement un doublé de chasseurs. On tirait devant nous, sur le chemin pris par les fuyards. Pendant que nous hésitions, la ligne d'où venait le premier vacarme, la ligne des rabatteurs, s'approcha tout près de nous, mettant de nouveau notre cerveau en déroute. Je ne sais pourquoi la fusillade me parut moins redoutable, plus familière que ce tapage de l'enfer. D'instinct, je repris ma course en avant, ayant soin toutefois de me dissimuler dans les buissons et de faire le moins de bruit possible. Mon compagnon me suivit. Nous arrivâmes ainsi dans la région d'où partaient les détonations. Je ralentis l'allure et m'approchai encore en rampant, presque. Toujours suivi de Levin, je gravis une sorte de butte et m'arrêtai au sommet, haletant. Il n'y avait plus devant moi que quelques arbres et un rideau de broussailles. J'avançai avec précaution ma tête au ras du sol. Là, je restai quelques instants comme assommé, terrassé par une vision hors de proportion avec ma pauvre raison humaine. Il y avait plusieurs éléments baroques, certains horribles, dans le tableau que j'avais sous les yeux. Mais mon attention fut d'abord retenue tout entière par un personnage, immobile à 30 pas de moi, qui regardait dans ma direction. Je faillis pousser un cri de surprise. Oui, malgré ma terreur, malgré le tragique de ma propre position, j'étais pris entre les rabatteurs et les tireurs, la stupéfaction étouffa tout autre sentiment quand je vis cette créature à l'affût guettant le passage du gibier. Car cet être était un singe, un gorille de belle taille. J'avais beau me répéter que je devenais fou, je ne pouvais nourrir le moindre doute sur son espèce. Mais la rencontre d'un gorille sur la planète Soror ne constituait pas l'extravagance essentielle de l'événement. Celle-ci tenait pour moi à ce que ce singe était correctement habillé, comme un homme de chez nous, et surtout à l'aisance à laquelle il portait ses vêtements. Ce naturel m'impressionna tout d'abord. À peine eus-je aperçu l'animal qu'il me parut évident qu'il n'était pas du tout déguisé. L'état dans lequel je le voyais était normal, aussi normal pour lui que la nudité pour Nova et ses compagnons. Il était habillé comme vous et moi, je veux dire, comme nous serions habillés si nous participions à une de ces battues organisées chez nous pour les ambassadeurs ou autres personnages importants dans nos grandes chasses officielles. C'était un gorille, vous dis-je. Du col de la chemise sortait la hideuse tête terminée en pain de sucre, couverte de poils noirs, au nez aplati et aux mâchoires saillantes. Il était là, debout, un peu penché en avant, dans la posture du chasseur à l'affût, serrant un fusil dans ses longues mains. Il se tenait en face de moi, de l'autre côté d'une large trouée pratiquée dans la forêt, perpendiculairement à la direction de la battue. Soudain, il tressaillit. Il avait perçu comme moi un léger bruit dans les buissons un peu sur ma droite. Il tourna la tête, en même temps qu'il relevait son arme, prête à épauler. De mon perchoir, j'aperçus le sillage laissé dans la broussaille par un des fuyards qui courait en aveugle droit devant lui. Je faillis crier pour l'alerter, tant l'intention du singe était évidente. Mais je n'en eus ni le temps ni la force. Déjà, l'homme déboulait comme un chevreuil sur le terrain découvert. Le coup de feu retentit alors qu'il atteignait le milieu du champ de tir. Il fit un saut, s'effondra et resta immobile après quelques convulsions. Mais je n'observais l'agonie de la victime qu'un peu plus tard, mon attention ayant été encore retenue par le gorille. J'avais suivi l'altération de sa physionomie depuis qu'il était alerté par le bruit et enregistré un certain nombre de nuances surprenantes. D'abord, la cruauté du chasseur qui guette sa proie et le plaisir fiévreux que lui procure cet exercice. Mais par-dessus tout, le caractère humain de son expression. C'était bien là le motif essentiel de mon étonnement. Dans la prunelle de cet animal brillait l'étincelle spirituelle que j'avais vainement cherchée chez les hommes de Soror. La hantise de ma propre position étouffa bientôt ma stupeur première. La détonation me fit porter de nouveau le regard vers la victime et je fus le témoin terrifié de ses derniers soubresauts. Je m'aperçus alors avec épouvante que l'allée qui coupait la forêt était parsemée de corps humains. Il ne m'était plus possible de m'illusionner sur le sens de cette scène. J'apercevais un autre gorille semblable au premier à 100 pas de là. J'assistais à une battue. J'y participais aussi, hélas. Une battue fantastique où les chasseurs, postés à intervalles réguliers, étaient des singes et où le gibier traqué était constitué par des hommes comme moi, des hommes et des femmes dont les cadavres nus, troués, tordus en des postures ridicules, ensanglantaient le sol.
Docteur Zaius, regardez-le bien, j'ai l'impression qu'il vous répond.
Il y a un don d'imitation assez remarquable, en effet.
Il n'est pas du tout comme les autres. Il se sert de cette vieille couverture comme vêtement. Je me demande ce qu'il donnerait si on lui faisait passer le test d'Hopkins sur l'habileté manuelle.
Non, un animal.
Regardez, il bouge ses doigts.
Simplement parce qu'il vous a vu bouger les vôtres.
Oh, mais il a peut-être compris.
Sottise, l'homme est incapable de comprendre. Tout au plus arrive-t-on à leur apprendre quelques tours faciles, mais c'est tout.
Je crains de ne pas pouvoir être d'accord, Excellence. D'après mes expériences...
Docteur Zira, je vous mets en garde. Que vous fassiez des expériences chirurgicales sur le cerveau de ces créatures est une chose, et vous avez mon agrément. Mais vos études sur le comportement de l'homme ne me disent rien qui vaille. Prétendre que nous pouvons apprendre quelque chose sur la nature simiesque en étudiant un homme tient de la fantaisie la plus échevelée. De plus, l'homme est nuisible.
Quatrième extrait, la rencontre avec Zaius. Trois personnages s'avançaient dans le passage. Zira, la guenon chimpanzé, et deux autres singes dont l'un était visiblement une haute autorité. C'était un orang-outan, le premier de cette espèce que je voyais sur la planète Soror. Il était moins grand que les gorilles et assez voûté. Ses bras étaient relativement plus longs, de sorte qu'il marchait souvent en prenant appui sur ses mains, ce que les autres singes ne faisaient que rarement. Il me donnait ainsi l'impression bizarre de s'aider de deux cannes. La tête ornée de longs poils fauves, enfoncés dans les épaules, le visage figé, dans un air de méditation pédante, il m'apparut comme un vieux pontife, vénérable et solennel. Une guenon chimpanzé de petite taille le suivait, portant une lourde serviette. D'après son attitude, elle devait être sa secrétaire. On ne s'étonne plus, je pense, de me voir signaler à chaque instant des attitudes et des expressions significatives chez ces singes. Je jure que tout être raisonnable eût conclu comme moi, à la vue de ce couple qu'il s'agissait d'un savant chevronné et de son humble secrétaire. Leur arrivée fut l'occasion pour moi de constater une fois de plus le sens de la hiérarchie qui semblait exister chez les singes. Zira témoignait au grand patron un respect évident. Les deux gorilles se portèrent à sa rencontre dès qu'ils l'aperçurent et le saluèrent très bas. L'orang-outan leur fit un petit signe condescendant de la main. Ils se dirigèrent tout droit vers ma cage. N'étais-je pas le sujet le plus intéressant du lot ? J'accueillis l'autorité avec mon sourire le plus amical et en lui parlant sur un ton emphatique. « Cher orang-outan, dis-je, combien je suis heureux d'être enfin en présence d'une créature qui respire la sagesse et l'intelligence. Je suis sûr que nous allons nous entendre, toi et moi. » Le cher vieillard avait très sauté au son de ma voix. Il se gratta longuement l'oreille, tandis que son œil soupçonneux inspectait la cage, comme s'il flairait une supercherie. Zira prit alors la parole, son cahier à la main, relisant les notes prises à mon sujet. Elle insistait, mais il était manifeste que l'orang-outan refusait de se laisser convaincre. Je commençais à en avoir assez de son aveuglement et résolus de lui donner une nouvelle preuve de mes capacités. Tendant le bras vers lui, je prononçais, en m'appliquant de mon mieux, « Mi Zaius ». J'avais remarqué que tous les subalternes s'adressant à lui commençaient par ces mots. Zaius, je l'appris par la suite, était le nom du pontife. Mi, un titre honorifique. Les singes furent médusés. Ils n'avaient plus du tout envie de rire, en particulier Zira, qui me parut extrêmement troublée. Surtout lorsque j'ajoutais, en pointant un doigt vers elle, Zira, nom que j'avais également retenu et qui ne pouvait être que le sien. Quant à Zaius, il fut en proie à une grande nervosité et se remit à arpenter le couloir, secouant de nouveau la tête d'un air incrédule.
Extrait 5, quand Ulysse, Mérou, entre au congrès. Ainsi, encadré de deux gardes du corps, je pénétrai d'un pas ferme dans la salle de réunion. Dès que je fus entré, je m'arrêtai, ébloui et décontenancé. J'avais déjà vu bien des spectacles étranges depuis mon arrivée sur la planète Saurore. J'estimais être accoutumé à la présence des singes et à leurs manifestations au point de ne plus pouvoir en être étonné. Pourtant, devant la singularité et les proportions de la scène qui s'offrait à mon regard, je fus saisi d'un vertige et me demandai une fois encore si je ne rêvais pas. J'étais au fond d'un gigantesque amphithéâtre qui me fut bizarrement pensé à l'enfer conique de Dante, dont tous les gradins, autour et au-dessus de moi, étaient couverts de singes. Il y en avait là plusieurs milliers. Jamais je n'avais vu autant de singes assemblés. Leur multitude transcendait les rêves les plus fous de ma pauvre imagination terrestre. Leur nombre m'accablait. Je chancelai et tentai de me ressaisir en cherchant des repères dans cette foule. Les gardiens me poussaient vers le centre du cercle, qui ressemblait à une piste de cirque où une estrade était installée. Je fis lentement un tour sur moi-même. Des rangées de singes s'élevaient jusqu'au plafond, à une hauteur qui me parut prodigieuse. Les places les plus proches de moi étaient occupées par les membres du congrès, tous savants chevronnés, revêtus de pantalons rayés et de redingotes sombres, tous décorés, presque tous d'un âge vénérable, et presque tous des orangs-outans. Je distinguais cependant dans leur groupe un petit nombre de gorilles et de chimpanzés. Je cherchais Cornelius parmi ceux-ci, mais ne le découvris pas. Au-delà des autorités, derrière une balustrade, plusieurs rangs étaient réservés aux collaborateurs subalternes des savants. Une tribune était aménagée à ce même niveau pour les journalistes et les photographes. Enfin, plus haut encore, derrière une autre barrière, se pressait la foule, un public simien qui me parut fort surexcité d'après la densité des murmures qui saluèrent mon apparition. Je cherchais également à découvrir Zira, qui devait se trouver parmi les assistants. Je sentais le besoin d'être soutenu par son regard. Là encore, je fus déçu et ne pus découvrir un singe familier parmi l'infernale légion de singes qui m'entourait. Je reportai mon attention sur les pontifes. Chacun d'eux était assis dans un fauteuil drapé de rouge, alors que les autres n'avaient droit qu'à des chaises ou des bancs. Leur aspect rappelait beaucoup celui de Zaius. La tête basse, presque au niveau des épaules, un bras démesuré à demi plié et posé devant eux sur un sous-main, ils griffonnaient parfois quelques notes, à moins que ce ne fût un dessin puéril. Par contraste, avec la surexcitation qui régnait sur les bancs supérieurs, ils me parurent avachis. J'eus l'impression que mon entrée et l'annonce qui en était faite par un haut-parleur arrivaient juste à point pour réveiller leur attention chancelante. En fait, je me rappelle fort bien avoir vu trois de ces orangs sursauter et relever brusquement le col, comme s'ils étaient arrachés à un sommeil profond. Cependant, ils étaient maintenant tous bien éveillés. Ma présentation devait être le clou de la réunion et je me sentais la cible de milliers de paires d'yeux simiens aux expressions diverses, allant de l'indifférence à l'enthousiasme. Mes gardes me firent monter sur l'estrade, où siégeait un gorille de belle allure. Zira m'avait expliqué que le congrès était présidé, non par un savant comme c'était le cas autrefois, alors les singes de science, livrés à eux-mêmes, se perdaient dans des discussions sans fin, n'aboutissant jamais à une conclusion, mais par un organisateur. À la gauche de cet imposant personnage se tenait son secrétaire, un chimpanzé, qui notait le compte-rendu de la séance. À sa droite, prenaient place successivement les savants dont c'était le tour d'exposer la thèse ou de présenter un sujet. Zaius venait d'occuper ce siège, salué par de maigres applaudissements. Grâce à un système de haut-parleurs conjugué avec des projecteurs puissants, rien de ce qui se passait sur l'estrade n'était perdu sur les plus hauts gradins. Le président Gori agita sa sonnette, obtint le silence et déclara qu'il donnait la parole à l'illustre Zaius pour la présentation de l'homme dont il avait déjà entretenu l'assemblée. L'orang-outan se leva, salua et commença à discourir. Pendant ce temps, je m'efforçais de prendre une attitude aussi compréhensive que possible. Quand il parla de moi, je m'inclinai en portant la main à mon cœur, ce qui souleva un début d'hilarité vite réprimé par la sonnette. Je compris rapidement que je ne servais pas ma cause en me livrant à ces facéties qui pouvaient être interprétées comme le simple résultat d'un bon dressage. Je me tins quoi, attendant la fin de son exposé. Il rappela les conclusions de son rapport et annonça les prouesses qu'il allait me faire exécuter, ayant fait préparer sur l'estrade les accessoires de ses maudites expériences. Il conclut en déclarant que j'étais aussi capable de répéter quelques mots, comme certains oiseaux, et qu'il espérait pouvoir me faire exécuter cette performance devant l'assemblée. Ensuite, il se tourna vers moi, prit la boîte à fermeture multiple et me la présenta. Mais au lieu de faire jouer les serrures, je me livrai à un autre genre d'exercice. Mon heure était venue. Je levai la main, puis, tirant doucement sur la laisse que tenait le garde, je m'approchai d'un micro et m'adressai au président. Très illustre président, dis-je en mon meilleur langage simien, c'est avec le plus grand plaisir que j'ouvrirai cette boîte. C'est très volontiers aussi que j'exécuterai tous les tours du programme. Cependant, avant de me livrer à cette tâche, un peu facile pour moi, je sollicite l'autorisation de faire une déclaration qui, je le jure, étonnera cette savante assemblée. J'avais articulé très distinctement et chacune de mes paroles porta. Le résultat fut celui que j'escomptais. Tous les singes restèrent comme écrasés sur leur siège, abasourdis, retenant leur respiration. Les journalistes en oublièrent même de prendre des notes et aucun photographe n'eut assez de présence d'esprit pour prendre un cliché de cet instant historique. Le président me regardait stupidement. Quant à Zaius, il paraissait enragé. « Monsieur le président » hurla-t-il, « je proteste !» Mais il s'arrêta court, submergé par le ridicule d'une discussion avec un homme. J'en profitai pour reprendre la parole. Monsieur le Président, j'insiste avec le plus profond respect, mais avec énergie, pour que cette faveur me soit accordée. Quand je me serai expliqué, alors, je le jure sur mon honneur, je me plierai aux exigences du très illustre Zaius. Un ouragan succédant au silence secoua l'assemblée. Une tempête de folie passait sur les gradins, transformant tous les singes en une masse hystérique où se mêlaient les exclamations, les rires, les pleurs et les hurrahs. Cela, au milieu d'un crépitement continu de magnésium, les photographes ayant enfin recouvré l'usage de leurs membres. Le tumulte dura 5 bonnes minutes, pendant lesquelles le président, qui avait retrouvé un peu de sang-froid, ne cessa de me dévisager. Il prit enfin un parti et agita sa sonnette. « Je... » commença-t-il en bégayant. « Je ne sais pas trop comment vous appeler. »« Monsieur, tout simplement, dis-je. »« Oui, eh bien, monsieur, je pense qu'en présence d'un cas aussi exceptionnel, le congrès scientifique que j'ai l'honneur de présider se doit d'écouter votre déclaration. » Une nouvelle vague d'applaudissements salua la sagesse de cette décision. Je n'en demandais pas plus. Je me plantai, très droit, au milieu de l'estrade, fixai le micro à ma hauteur et prononçai mon discours.
Extrait 6 et dernier extrait, Réminiscence. Tout va bien, ils sont calmes. Nous pouvons procéder immédiatement à un essai. De quoi s'agit-il, implorai-je ? Je préfère vous laisser la surprise, me dit Cornelius avec un petit rire. Le gorille anesthésia les deux patients, qui s'endormirent bientôt tranquillement, et mit en marche divers appareils. Elius s'approcha de l'homme, déroula avec précaution un pansement qui lui couvrait le crâne, et visant un certain point, appliqua les électrodes. L'homme conserva une immobilité absolue. J'interrogeai Cornelius du regard quand le miracle se produisit. L'homme parlait. Sa voix retentit dans la pièce avec une soudaineté qui me fit sursauter, couvrant le ronronnement d'un générateur. Ce n'était pas une hallucination de ma part. Il s'exprimait en langage simien, avec la voix d'un homme de la Terre ou celle d'un singe de cette planète. « Prodigieux !» balbutiai-je. « Vous n'avez encore rien vu. Il parle comme un perroquet ou un phonographe, » dit Elius. « Mais j'ai fait beaucoup mieux avec celle-ci. » Il me montrait la femme qui dormait paisiblement. « Beaucoup mieux ? 1000 fois mieux !» confirma Cornelius, qui partageait la surexcitation de son collègue. « Écoutez-moi bien, cette femme parle, elle aussi. Vous allez l'entendre. » Mais elle ne répète pas des paroles entendues en captivité. ces discours ont une signification exceptionnelle. Par une combinaison de procédés physico-chimiques dont je vous épargne la description, le génial Helius a réussi à réveiller en elle non pas seulement la mémoire individuelle, mais la mémoire de l'espèce. Ce sont les souvenirs d'une très lointaine lignée d'ancêtres qui renaissent dans son langage, sous l'excitation électrique. Des souvenirs ataviques ressuscitant un passé vieux de plusieurs milliers d'années. Comprenez-vous, Ulysse ? Je restais confondu par ce discours insensé, pensant vraiment que le savant Cornelius était devenu fou, car la folie existe chez les singes, particulièrement chez les intellectuels. Mais déjà, l'autre chimpanzé préparait ses électrodes et les appliquait sur le cerveau de la femme. Celle-ci resta un certain temps inerte, comme l'avait fait l'homme, puis elle poussa un long soupir et commença à parler. Elle s'exprimait également en langage simien, d'une voix un peu étouffée, quoique très distincte, et qui se modifiait souvent, comme si elle appartenait à des personnages divers. Toutes les phrases qu'elle prononça se sont gravées dans ma mémoire. Ces singes, tous ces singes, disait la voix avec une nuance d'inquiétude. Depuis quelque temps, ils se multiplient sans cesse, alors que leur espèce semblait devoir s'éteindre à une certaine époque. Si cela continue, ils deviendront presque aussi nombreux que nous. Et il n'y a pas que cela. Ils deviennent arrogants. Ils soutiennent notre regard. Nous avons eu tort de les apprivoiser et de laisser une certaine liberté à ceux que nous utilisons comme domestiques. Ce sont ceux-là les plus insolents. L'autre jour, j'ai été bousculé dans la rue par un chimpanzé. Comme je levais la main, il m'a regardé d'un air si menaçant que je n'ai pas osé le battre. Anna, qui travaille au laboratoire, m'a dit que beaucoup de choses étaient changées là aussi. Elle n'ose plus pénétrer seule dans les cages. Elle m'a affirmé que le soir, on y entend comme des chuchotements et même des ricanements. Un des gorilles se moque du patron en imitant un de ses tics. La femme observa encore un silence et reprit d'une voix différente, une voix d'homme, assez doctorale.
« Ce qui nous arrive était prévisible. Une paresse cérébrale s'est emparée de nous. Plus de livres. Les romans policiers sont même devenus une fatigue intellectuelle trop grande. Plus de jeux. Des réussites à la rigueur. Même le cinéma enfantin ne nous tente plus. Pendant ce temps, les singes méditent en silence. » Leur cerveau se développe dans la réflexion solitaire et ils parlent. Oh, peu, presque pas à nous, sauf pour quelques refus méprisants aux plus téméraires des hommes qui osent encore leur donner des ordres. Mais la nuit, quand nous ne sommes pas là, ils échangent des impressions et s'instruisent mutuellement. Une nouvelle voix féminine prit le relais. J'étais femme dompteur. Je présentais un numéro de 12 orang-outans, des bêtes magnifiques. Aujourd'hui, c'est moi qui suis dans leur cage, en compagnie d'autres artistes du cirque. Il faut être équitable. Les singes nous traitent bien et nous donnent à manger en abondance. Ils changent la paille de notre litière quand elle est trop sale. Ils ne sont pas méchants. Ils corrigent seulement ceux parmi nous qui font preuve de mauvaise volonté et refusent d'exécuter les tours qu'ils se sont mis en tête de nous apprendre. Ceux-là sont bien avancés. Moi, je me plie à leur fantaisie sans discuter. Je marche à quatre pattes. Je fais des cabrioles. Aussi sont-ils très gentils avec moi. Je ne suis pas malheureuse. Je n'ai plus ni soucis ni responsabilité. La plupart d'entre nous s'accommodent de ce régime. La femme observa cette fois un très long silence, pendant lequel Cornelius me regardait avec une insistance gênante. Je comprenais trop bien sa pensée. Une humanité aussi veule, qui se résignait si facilement, n'avait-elle pas fait son temps sur la planète? Et ne devait-elle pas céder la place à une race plus noble? Je rougis et détournai les yeux. La femme reprit sur un ton de plus en plus angoissé. « Ils tiennent maintenant toute la ville. Nous ne sommes plus que quelques centaines dans ce réduit et notre situation est précaire. Nous formons le dernier noyau humain aux environs de la cité. Mais les singes ne nous tolérerons pas en liberté si près d'eux. Dans les autres camps, quelques hommes ont fui au loin, dans la jungle. Les autres se sont rendus pour avoir de quoi manger à leur faim. Ici, nous sommes restés sur place, surtout par paresse. Nous dormons, nous sommes incapables de nous organiser pour la résistance. » C'est bien ce que je craignais. J'entends une cacophonie barbare, on dirait une parodie de musique militaire. Au secours, ce sont eux, ce sont les singes. Ils nous encerclent. Ils sont dirigés par d'énormes gorilles. Ils nous ont pris nos trompettes, nos tambours et nos uniformes. Nos armes aussi, bien sûr. Non ! Non, ils n'ont pas d'armes. Oh, cruelle humiliation, suprême injure. Voilà leur armée qui arrive et ils ne brandissent que des fouets.
C'est pas vrai. C'est pas possible. 2000 ans plus tard, nous étions revenus sur la Terre. Ce monde de cauchemar, c'est la Terre. Les criminels! Ils les ont fait sauter leurs bombes! Oh, les fous! Je vous hais! Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles!
Voilà, c'était notre spécial Planète des singes. Des extraits choisis minutieusement par Anouk et Prunel. C'était donc un livre de Pierre Boulle.
Alors, pour les fans comme nous, qui aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup toutes les adaptations cinématographiques faites à partir de ce livre-là, eh bien, je vous annonce que dans le livre, il y a des surprises, il y a des éléments nouveaux que vous ne connaissez pas. Et donc, du coup, moi, j'ai été vraiment ravie de le redécouvrir, ce livre-là, parce que, évidemment, même si le film est inspiré du livre, il y a vraiment encore plein de choses dans le dernier quart du livre. Notamment, il y a vraiment des choses qu'on découvre encore rien qu'à la lecture du livre. Donc, allez-y, allez le lire. Anouk va enchaîner avec la fin de l'émission.
Voilà, vous étiez donc toujours sur Principe Actif dans l'émission La Langue Brune. Elle a lieu le jeudi de 12h30 à 13h30 tous les 15 jours. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Principe Actif, rubrique podcast. La prochaine émission aura lieu le 25 octobre avec au programme la suite et la fin des Blue Cerises que nous vous avions promis. Voilà, nous remercions Damien qui a fait la réal aujourd'hui.
Nous remercions aussi Emmanuel Petit pour les samples, pour les quelques extraits du film que vous avez entendu. Donc merci beaucoup. Et puis, oui, voilà, donc pour la prochaine, vous avez dû remarquer que cette fois-là, on n'a pas lu des extraits des Blue Cerises, alors que vous en avez promis pendant 4 émissions. Mais c'est sûr, la prochaine est consacrée aux Blue Cerises, suite et fin. Est-ce qu'on a tout dit ?
On a tout dit.
On a tout dit, très bien.
Alors, au revoir.
Au revoir Anouk, au revoir Damien, merci beaucoup, à bientôt.